Salut, c'est Champ Libre. Salut à tous, Champ Libre numéro 554, troisième mercredi du mois oblige. Donc un champ libre avec des images et du son. Bah oui, du son, puisque Carole est là pour nous parler de
musique.
De musique. Damien va nous parler de musique. Métal, mais musique.
Toujours la musique, oui.
Voilà. Et puis les images, on laisse ça à jour.
Toujours du cinéma, oui. Bien sûr.
Tu as les yeux bridés aujourd'hui.
Ah oui, absolument. Hein? Ça va être rock.
Tu as Johnny.
Ah, ouais.
Johnny n'est pas là, non. On commence ce champ libre avec une nouveauté. C'est un album qui sort dans quelques jours. Le groupe s'appelle Bronco. Alors, je vous laisse imaginer un groupe qui mélangerait à la fois les Beach Boys, Ohio Express, le glam rock des années 70, et puis un peu de New Wave, pour faire plaisir à Damien. Tout ça s'appelle Bronco, c'est le nom du groupe, et l'album qu'ils sortent s'appelle Just Enough Hip to Be a Woman. Donc je laisse Carole réfléchir à la citation, et je vous propose d'écouter tout de suite un titre, It's On. C'est le nom du groupe Just Enough Hip to Be a Woman. C'est un album qui sort dans quelques jours. On projette quelques images.
Oui, Péril jaune à Champ Libre. Donc, je voulais quand même, une fois n'est pas coutume, m'attarder un petit peu sur le cinéma japonais, chose que je n'ai pour l'instant jamais faite. Et en l'occurrence, je voulais revenir sur un petit coup de cœur qui est sorti, voilà, 2 semaines. Un film traditionnel, certes, mais subtil, du vétéran Yoji Yamada, La maison au toit rouge. Donc avec quand même ce film, nous est quand même offerte l'occasion de découvrir le cinéma rare et méconnu de ce cinéaste octogénaire, très connu au Japon, mais dont l'œuvre reste invisible en France. Pour info, Yamada a réalisé 82 films, dont 44 concernant une série de films qui s'appelle Otoko wa Tsurayo, qui reprennent le même protagoniste, Tora-san, et qui constitue la plus grande série de longs métrages au cinéma. Et pour situer un petit peu la réputation de Yamada en France, La maison au toit rouge est seulement le 6e film du cinéaste visible sur grand écran. Le script demeure assez classique. Un jeune homme retrouve le manuscrit autobiographique d'une vieille tante décédée, dans lequel elle raconte comment, jeune fille, elle s'est rendue à Tokyo pour y être une bonne à tout faire dans cette fameuse maison au toit rouge résolument moderne. Elle y noue des proximités avec la maîtresse de maison et son fils, et où elle fut le témoin de grands événements de l'histoire, la guerre en Mandchourie, la guerre contre les alliés, l'exaltation patriotique, bref, plus petits événements également, tels que l'adultère de sa maîtresse. Donc en gros, vous l'aurez compris, hein, pas de bouleversement narratif dans cette chronique de jeunesse, ni de scènes spectaculaires inhérentes à l'avènement de la guerre et des bombardements. Voici plutôt une romance réalisée de manière classique, mais avec une grande délicatesse, et où les jugements sociaux et le regard moral de la vie japonaise d'époque sont davantage mis en avant, où les rapports à l'effort national, l'effort de guerre, s'avèrent plus importants que les rapports entre les Japonaises eux-mêmes. Et même si Yamada ne se présente jamais comme un grand dénonciateur ni un moralisateur, son film, parfois un peu lisse, hein, il faut le dire, gagne au fur et à mesure de la profondeur. La mise en scène, qui te parle les souvenirs enjolivés de l'attente, magnifie les images d'époque autant colorées et pastelles, alors que la lumière dans laquelle baigne notre monde actuel s'avère plate et sans relief. Donc pas de nostalgie patriotique là-dessous, attention, juste une manière de rendre plus de vie aux images d'une époque révolue depuis bien longtemps. Donc un film très digne, très agréable, peut-être un peu long, allez, on va le dire, mais jamais ennuyeux, donc à découvrir, vraiment, et bonne introduction au cinéma de Yoji Yamada, voilà.
Donc, La maison au toit rouge.
Au toit rouge, absolument.
Chers acolytes.
Moi, s'il n'y a pas Godzilla, je
vais pas. Donc, Carole n'a pas vu le film.
Non plus.
Toi non plus. Alors, moi, je n'ai pas vu le film, mais je me suis plongé dans la presse. Alors, les hebdos, les mensuels, les quotidiens qui chroniquent ou qui ont chroniqué ce film. Donc, j'ai découvert que Télérama a aimé.
Oui.
Voilà, sans plus.
Oui,
par contre, donc je pose la question comme ça, je découvre que les spectateurs qui ont lu la chronique de Télérama réagissent. Et je lis « Il vaut mieux aller voir le journal d'une femme de chambre de Benoît Jacquot
oh. ».
Qui raconte à peu près la même histoire.
Oui, mais qui était déjà fait 2 fois par Renoir, par Buñuel. Et, bon, Benoît Jacquot, il fait de très bons films. En l'occurrence, non, moi, je ne les mettrais pas sur les deux mêmes plans, quand même, parce que le journal d'une femme de chambre, c'est quand même un ton un peu plus amer. C'est pas du tout le même ton. On peut vraiment pas les comparer. Pour le coup, je trouve le film de Yamada pas prétentieux. Je dis pas que le cinéma de Jacquot l'est, mais en l'occurrence, on a un film qui ne se prend pas...
En tout cas, cette comparaison revient sous la plume de plusieurs critiques ou
oui, parce que les films sortent en même temps, mais sinon, enfin, je vois aucun lien. Aucun lien de parenté entre les deux films.
Alors, autre chose que j'ai lu, Télérama écrit subtil et délicat.
Ah,
c'est
oui.
Un peu ce que tu as dit.
Oui, tout à fait.
Le spectateur, lui, dit, moi je dirais plutôt mièvre et laborieux.
Mièvre, non. Alors, je serais d'accord pour les
pas
séquences.
De rythme.
Non, ça c'est pas vrai. Je dirais plutôt laborieux parce que le film n'arrive pas à se terminer ou plutôt se termine oui, laborieusement, on peut le dire. Et le film reste digne tout le long. Je trouve que c'est un très joli film. Alors, très classique, effectivement. On n'a pas une mise en scène... c'est pas Godzilla, hein, justement. Donc, après, le film veut partir dans des travées diverses et variées sur la personnalité de cette fameuse tante et rame un petit peu à la fin. Parce qu'on on n'en apprend pas plus. Et finalement, les 15 dernières minutes sont presque inutiles, je dirais. Mais sinon, le film se regarde bien et on passe un très très bon moment, vraiment.
On a pris l'habitude depuis quelques émissions de jouer un petit jeu.
Mais, petit jeu, oui.
Hein? Le million.
Un ou deux mots et
oui.
C'est moi.
Hein? Oui. Non, mais bien sûr.
Jette comme ça sur la table un ou deux mots et puis tu réagis. Mélo.
Oui, un petit peu, bien sûr. Juste ce qu'il faut. Il y a plus d'un mot, en fait. Mais là, oui. Oui, mélo. Oui, certes.
Mais mélo. Commentaire social.
Oui, commentaire social, absolument. C'est sur l'époque du Japon, sur cette époque-là du Japon, des épouses asservies, du rang que l'on doit tenir dans la société japonaise, oui, complètement. Oui,
le destin d'une femme de ce milieu-là...
Qui a un destin tout tracé...
C'est bonne.
Voilà.
Puis elle s'entraîne pour être femme.
Mais c'est pareil, femme au foyer. Et c'est, voilà, femme au foyer voilà. Et dont le destin ne doit pas se voilà. détourner
Selon
de la famille.
L'alternative, c'est geisha.
Sinon, c'est geisha et déshonoré, bien évidemment. Ouais.
Commentaire social aussi, puisque d'après ce que j'ai cru comprendre, même si tout se passe à l'intérieur de la maison de Toit Rouge, à l'arrière-plan, il y a, tu en as parlé, la guerre...
La guerre,
l'hypernationalisme,
l'exaltation patriotique, qui font plus, ils le montrent plus comme un état d'inconscience, je dirais, du Japon et d'une véritable volonté de grandeur du Japon et pas forcément les atrocités faites en Chine et contre les Alliés, ils sont occultés. On voit plutôt la grandeur du Japon et c'est ce qu'ils ont voulu montrer, cet aveuglement, finalement, de l'histoire.
Derrière l'histoire d'amour entre la patronne et le jeune dont j'ai oublié le nom...
Oui, je ne me rappelle plus.
Voilà. Il y a cette idée que cet homme-là doit partir faire la guerre,
oui.
Alors qu'il pourrait échapper à la chose.
Alors que c'est un artiste et qu'il a des tares physiques et qui doivent l'empêcher de partir.
Mais c'est parce qu'il est artiste qu'il a des...
Non, il a des problèmes aux yeux et en plus, il est artiste. Donc, voilà. Et donc,
il se
croit
guerre,
démobilisable quoi. Et il se fait mobiliser finalement pour la guerre.
Ce qui arrange tout le monde finalement.
Oui, finalement.
donc, je devrais te poser la question au journal d'une femme de chambre de Octave Mirbeau. Tu as répondu tout à l'heure, non. Mièvrerie. Parce que ça, c'est une critique qui revient...
C'est incroyable, ça, mièvrerie. Non, reste sur les 15 dernières minutes, peut-être mièvre. Oui, le reste du film, non. Donc, c'est un très beau film.
D'accord. Voilà. La maison au toit rouge.
La maison au toit rouge. Mais quand même...
Vas-y, j'aime bien.
Yoji Yamada.
D'accord. Il parle couramment le...
Non, japonais. Pas couramment. J'ai essayé, mais je désespérais. Malheureusement. Mais par contre, je voudrais revenir sur la sortie d'un coffret DVD très rapidement. Le coffret de Nagisa Oshima, donc, qui est un coffret digne de ce grand réalisateur qui a été le chantre de la nouvelle vague du cinéma japonais, avec des réalisateurs comme Shoji Imamura, Masahiro Shinoda et Tamagoshi Shimagono. Et du coup, certains films étaient déjà édités, et là, enfin... un superbe coffret de 9 films avec vraiment des perles restaurées. Jetez-vous dessus. Il n'est pas très cher pour ce qu'il propose. Donc voilà, très très grand coffret de ce très très grand réalisateur.
Qu'est-ce qu'il y a comme film ?
Alors, il y a 3 classiques, 3 chefs-d'œuvre, La Pendaison, La Cérémonie, Le Petit Garçon et plein de petits bijoux derrière Une Petite Heure pour l'été, Le Piège, Il est mort après la guerre, etc. Un journal d'un voleur à Shinjuku. Bref, que des petites perles.
Merci, Jo. C'était un champ libre
japonais.
En images japonaises.
Ouais,
un peu de manga la semaine prochaine.
Ah bah,
mois prochain.
Oui. D'accord.
un peu de musique aussi. Alors, un autre album nouveau, il est sorti il y a quelques jours. Il s'appelle Freedom Tower. C'est le nouvel album du John Spencer Blues Explosion, qui n'a de blues que le nom d'Explosion, toute sa musique. White Jesus, un Jésus blanc dans Chant Libre. C'était John Spencer Blues Explosion, Freedom Tower, très bon nouveau disque hein, du John Spencer, un morceau court, un album court.
Oui, 1 minute 39 quand même, c'est...
C'est presque long.
C'est osé quoi.
Carole, c'est
mais c'est à
toi.
Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Donc ce soir, nous allons nous intéresser à un incontournable de ce début d'année, c'est le dernier Björk. Après Medulla, Volta et Biophilia, l'enchanteuse islandaise Björk nous revient avec Vulnikura, un neuvième album né d'une rupture. À travers ce somptueux voyage dans lequel s'entremêlent électro, incantation et orchestration, Björk tente d'exorciser la douleur liée à sa séparation avec l'artiste contemporain Matthew Barney. Musicalement, il marque aussi un retour à une forme plus brute et sensuelle après les expérimentations multimédia de l'album Biophilia. On constate dès le premier titre que sa voix est un instrument à part entière. Les sections de cordes accompagnent ses organes qui la rend si particulière. Chaque note, chaque souffle, chaque râle est une émotion. Les cordes servent à sublimer et accentuer la dramaturgie. On retrouve des fragments de titres tels que le somptueux Yoga sur Stone Milker qui ouvre l'album. Le jeu de voix semblable au concept de Medulla caresse l'intro de Lion Song et un brin de Volta s'invite dans le guerrier Not Get. Vulnikura est l'album le plus personnel et le plus abouti. Toute l'histoire musicale de Björk se décline à travers ses 9 titres. Comme une renaissance, l'elfe renoue avec la magie et nous fait don d'une musique à la fois surnaturelle et intense. Elle fait jaillir les flammes qui l'animent, des sons subliminaux, une multitude d'effets dont elle a le secret et la maîtrise, créant tour à tour la mélancolie ou l'état d'urgence. Contrairement à l'album que tu viens de nous présenter, les titres, eux, sont assez longs et en moyenne durent 6 minutes. Donc la chronique va être un petit peu plus courte que d'habitude parce que je vais vous proposer 2 titres parce que c'est génial. Donc on va commencer par Stone Milker, donc c'est le tout premier titre qui ouvre cet album. Coordinates.
Thank you.
Stonemaker, premier extrait de l'album Vulnicula. Björk aborde un sujet maintes fois évoqué sur cet album, mais néanmoins inépuisable, sans aucune retenue. La mise à nu est intégrale. La pudeur laisse place à la confession. L'artiste se livre à cœur ouvert et décrit l'amour, le sentiment d'abandon et de trahison comme personne. La blessure est terriblement profonde, en atteste la pochette de l'album. L'on y voit l'artiste prendre la pose, telle une madone auréolée, arborant sur le torse les stigmates de l'amour. Le thorax est déchiré sur la longueur, créant une image ambiguë. Les mains sont ouvertes et le visage est entouré d'une interprétation onirique de la lumière. L'imagerie est résolument sacrée, quelque part entre le sacrifice et le don apaisé de soi. La construction de Vulnicura est à la frontière du journal intime. Des indications temporelles figurent sur le livret, tel un compte à rebours pour les trois premiers titres qui fractionnent les 9 mois précédant la rupture. Le déchirant Black Lake se situe 2 mois après et entame le 2e cycle, celui de la réaction suivant la séparation. Il se termine avec le 6e titre, le guerrier Not Get, symbolisant le 11e mois après. Enfin, les 3 derniers titres dévoilent l'examen de conscience, la synthèse morale et affective de l'expérience destructrice. Vulnicura est une plongée dans les tréfonds de la souffrance humaine, à la fois charnelle et psychologique. Les textes mêlent le doute et l'amertume en passant par le désespoir, le sentiment de trahison, de douleur ou la perte totale de soi. Par l'universalité du thème et la violence de l'expression, Björk nous émeut, éblouit, impressionne par tant de sincérité et sa fragilité qui fait d'elle une femme exceptionnelle. Cela n'engage que moi. On écoute le 2e extrait de cet album, Lion Song. Maybe he will call on our sins. Maybe he will somehow I'm not too.
And transformed these abstract, complex feelings. I just don't know how to handle them. Should I throw oil on one of these moves? But which one? Make joy peak, humor peak, frustration peak, anything peak. Clarity. Maybe he will come out of this loving me. Maybe he won't. I'm not taming love anymore. Maybe he will come out of this. Come.
On vient d'écouter le magnifique Lion Song, extrait du l'album, 9e album Vilnikura de Björk. Donc maintenant, je vais me faire le plaisir de vous demander ce que vous en avez pensé.
Tu peux redire le titre de l'album ?
Vilnikura, avec l'accent. J'ai travaillé l'accent islandais.
Alors, ce qu'on lui reproche d'ailleurs, c'est de rouler les R de plus en plus.
Oui, mais bon, après, enfin, ça va, c'est... Ouais. Elle revendique ses origines, elle a le droit quand même. Ouais. Moi, je trouve que c'est ce qui fait son charme, après, ça... C'est mon avis.
Ça fait japonais aussi.
Ça
hein.
commence bien.
Ça,
vous n'y croyez pas, je... Voilà. Oui, tout le monde a écouté les albums de ce soir.
Ah oui.
Joe.
Oui, moi, je l'ai écouté plusieurs fois, parce que je l'ai écouté passivement, on va dire, la première fois. Mais je l'ai trouvé intéressant par rapport au précédent qu'elle a pu faire, qui m'avait plutôt refroidi et petit à petit désintéressé de son travail. Et finalement, là, non, j'étais très touché, j'ai trouvé l'album très fort. Hein. Et depuis, je l'ai réécouté plusieurs fois. Et non, c'est un très bon album pour moi. Ouais.
Damien ?
Alors moi, je suis plutôt indécis. Je ne sais vraiment pas si j'aime ou pas. Il y a des bons côtés, il y en a des mauvais. Je sais qu'en tout cas, je ne pourrais pas écouter tout l'album en entier d'un coup. Ce serait chanson par chanson.
Tu découvres
Björk. Oui, j'ai jamais écouté avant. Donc là, c'est...
Moi, j'ai une heure, si tu veux, après, devant moi, on pourra discuter.
Alors, moi, j'ai pas une heure, là. Oui, moi, je trouve que... elle renoue. Certains titres me font penser à Vespertide.
Oui, complètement. C'est pour ça que je te dis, il y a vraiment tout le travail de Björk depuis son premier album. Il y a vraiment toutes ces influences.
Effectivement,
c'est un melting pot.
L'avant-dernier était carrément, comment dire, imbitable, de BIT, BIT. Puisque ça se voulait un truc branché informatique.
C'est un peu inepte, complet. Même.
Voilà, c'est un petit peu. Ouais. Alors, est-ce qu'une fois de plus, il faut se réjouir que les artistes qu'on aime ou que tu aimes, Carole, souffrent ?
Se séparent, oui, bien sûr.
Se séparent, oui.
C'est triste pour elle, parce qu'effectivement, on sent qu'elle a vraiment beaucoup souffert. Mais tant mieux pour nous, parce qu'on retrouve une artiste qui est enfin renoue avec vraiment son art et ce qui fait sa particularité. Et elle nous offre vraiment un album superbe, alors qu'elle s'était perdue dans des tréfonds. Et même, je ne suis pas sûre que l'influence de Matthew Barney ait eu de bonnes choses sur elle, puisque depuis qu'il est avec Björk, elle a fait des projets multiples et variés. Elle avait fait notamment la bande originale de son film sur les baleines Dream of Streamline, et c'était vraiment les prémices de ce qu'elle avait fait avec Biophilia, par exemple. Donc on avait quelque chose de très froid, très expérimental. Et là, on a senti ça sur Volta aussi, donc c'est pas forcément les albums que j'ai préférés.
Alors d'après ce que j'ai vu, j'ai vérifié dans la pochette, chaque titre est numéroté,
hein,
3 mois avant, voilà. 2 mois avant, 1 mois avant. D'après ce qu'elle raconte,
c'est
d'après ce que j'ai lu à côté,
compte à rebours,
elle explique qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Enfin, jusqu'au bout, elle espère que non. Et puis en fait, il y a cette rupture réelle, l'éclatement du couple. Et puis après comment elle va...
Comment elle le gère, voilà. Comment elle le digère ou pas. Donc, c'est ce qui est intéressant sur vraiment le concept de l'album.
Un côté un petit peu plus humain.
C'est très intime.
Bon, je ne suis pas un spécialiste de Björk, mais elle a quand même eu souvent tendance à partir parfois dans des choses qui étaient un petit peu abstraites.
Oui, sans pour autant s'y perdre. C'est-à-dire qu'elle a eu des projets comme Vespertine où effectivement elle a eu vraiment un concept sur les sons, sur le froid. On sentait une température sur cet album-là. Elle avait travaillé avec Matmos notamment, où il y avait le son, c'était les pas dans la neige, ce genre de choses. C'était très expérimental, mais ça restait... très harmonieux, il y avait une beauté évidente sur cet album. Pareil pour Medulla, où c'était le concept de la voix, l'instrument était simplement la voix. Elle est allée chercher des voix partout dans les quatre coins du monde pour obtenir cet album-là. C'était vraiment de la cappella, très très peu d'instruments.
Alors justement, est-ce que ce mot-là que tu viens de prononcer, concept, n'est pas quelque chose qu'on met, alors pas uniquement Björk, mais...
C'est devenu à la mode, effectivement. Tu prends par exemple... exactement, j'allais dire ça. Fauve, c'est un concept. Mais après, je ne suis pas sûre qu'il faille mettre sur le même pied d'égalité un groupe comme Fauve et Björk.
Pourtant,
attention, parce que j'ai une heure après.
Très bien, donc l'album s'appelle...
Vilnikura.
Il faut rouler les airs.
Oui, il faut respecter l'artiste.
Comme Björk. Et puis voilà, c'est donc le nouvel album de Björk. écoutable celui-ci par rapport à ce qu'il a.
Et c'est important de suivre l'album avec le livret, parce que du coup on rentre vraiment dans l'intimité, on comprend mieux ce qu'elle veut faire par cet album-là. C'est pas juste ok, j'ai une commande de ma maison de disques et j'en sais un album, ça n'a rien à voir. C'est vraiment très personnel.
Très bien, merci Carole.
Oui, merci à vous.
Chant libre, le favori.
Carole, tu pourrais présenter également ce favori de chant libre depuis déjà quelques semaines.
Tout à fait.
Parti comme c'est parti, il n'y a quand même que 28 titres dans le machin. Et je me connais, 28 semaines. Donc, voilà. Non, sérieusement, le dernier album de Dominika Eleor est un petit bijou. Oui, ouais. Moi, j'avais un petit peu peur parce que le précédent était très, très bon. Ouais. Comment allait-il se débrouiller?
Excellent.
Bah, c'est plutôt pas mal. Et le deuxième CD qui s'appelle Autour des Léors, qui correspondrait, si vous voulez, à des maquettes ou à des tentatives autour des titres de Léors, est largement aussi bien que ce qu'il fait dans l'album principal. Dominika, dont on reparlera la semaine prochaine, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit plus favori, mais dont on reparlera également, puisque un bouquin arrive, écrit par Dominika. Année, Dominika. Et voilà, donc c'est pour le chant libre de la semaine prochaine.
C'est un roman ou c'est. Parce que
c'est un roman dans lequel il raconte le Dominika du début.
D'accord, ok.
On écoute un titre. Nouvelle vague, Eleor, Dominika, petit bijou. Fourvière, il paraît que c'est complet, sniff.
Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, comme d'un autre pays, d'une autre saison. Sans que tu le demandes, j'annulerai certains noms, comme on vide le poison contenu dans la dague. Et tu pourras bientôt sortir de la maison. Pas un jour l'amour ne t'a pas relancé, pas un jour où tu n'as lutté contre le sort qu'un amour de malheur, malheur t'avait jeté. Il t'envoyait encore des signaux de fumée. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, des histoires envahies de points de suspension. La bouche délestée du poids de certains noms qui sont comme l'acide jeté sur un visage. Et tu pourras enfin sortir de la maison. Pas un jour, mon amour, je ne t'ai caché des mises hors de portée de qui ciblait ton cœur. J'étais le paravent des signaux de fumée. J'étais la sentinelle face au chant des frayeurs. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, comme d'un autre pays, d'une autre saison. Sans que tu le demandes, j'annulerai certains noms, comme on vide le poison contenu dans la dague. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, des histoires envahies, point de suspension. La bouche délestée du poids de certains noms qui sont comme l'acide jeté sur un visage. Je te ferai enfin sortir de la maison.
Et on passe directement de Dominica au
metal. Glam metal.
Damien.
Glam metal précision.
Pardon, je dis rien.
Donc, on va écouter tout de suite un titre pour se mettre en bouche. Twisted Sisters, le titre I Wanna Rock, sorti en 1984 sur l'album Stay Hungry. C'était donc I Wanna Rock des Twisted Sisters. Nous allons donc parler de glam metal, un genre né dans les années 80 sur la côte ouest des USA, plus précisément à Los Angeles, donc berceau de la musique metal en général d'ailleurs. C'est un genre donc, qui est très daté années 80, puisqu'il meurt avec l'arrivée du grunge au début des années 90, même si il y a quelques groupes. Qui reviennent aujourd'hui, on en parlera plus tard. Le glam metal, pour une fois, c'est pas un genre qui se définit, enfin, au niveau du terme glam, par la musique, mais plus par l'apparence, puisque les membres des groupes sont habillés comme des drag queens avec des permanentes et du maquillage, des foulards et des jeans en cuir. Voilà.
Ils ont vu David Bowie et T-Rex.
Oui, mais ils font ça en un peu plus trash quand même.
Plus trash.
Voilà.
New York Dolls.
Voilà, c'est plutôt punk en effet. Enfin, ouais. On peut rapprocher ça du punk. Même si c'est plus calibré pour les radios que le punk. Ouais. Les chansons parlent de sexe et d'alcool. Voilà.
Oh, c'est vachement original.
Non, ouais. c'est pas très original, mais justement. Bon.
Comme le dernier Björk.
On pourrait dire que le glam metal, C'est un genre qui est répudié par les amateurs de métal sérieux. Mmh. On peut classer ça comme dans le métal extrême. Mais bah, tous ceux qui ont de l'humour, ils apprécieront. Puisque c'est quand même des paroles à prendre au premier degré. Malgré tout, le premier degré n'est pas compris par tout le monde, puisque, ben, comme beaucoup de groupes de métal, on a eu des problèmes avec des associations de parents, des associations religieuses.
Ils occupent, hein, même temps.
Voilà, qui dénonçaient des groupes comme Motley Crue, Twisted Sister, qu'on a écouté, Wasp ou Def Leppard, de satanisme ou d'incitation à débauche. Mm. Donc, dans les groupes, on pourrait citer Twisted Sister, Wasp, Bon Jovi, donc le parrain du glam adapté à la radio.
Petit blond.
Voilà. Motley Crue.
Choucroute.
Peut-être plus connu d'ailleurs pour ses frasques avec les groupies, des accidents de voiture et des passages en prison, des overdoses, que pour sa musique. Et aussi Def Leppard. Comme Bon Jovi et très calibré pour la radio. Donc c'est un genre qui était un peu tombé en désuétude. Aujourd'hui, les grands groupes se reforment, besoin d'argent peut-être. Et toujours est-il qu'ils apparaissent régulièrement, notamment au Hellfest en 2013, donc où il y avait Kiss, Twisted Sister et peut-être même Wasp si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, on a quand même des nouveaux groupes, un francophone, enfin un français, pas francophone, Black Rain, qui avait été remarqué à La France un incroyable talent, et qui aujourd'hui a lancé sa carrière. Et sinon, nous avons le groupe Kissing Dynamite, et aussi Steel Panther, là, qui joue la carte de la parodie à fond, donc en détournant vraiment les codes du glam metal. D'ailleurs, on va écouter un morceau de leur dernier album, sorti en 2014. Le titre s'appelle Glory All, je me refuse à le traduire. Et ah bon, c'est tout de suite.
There's a hole in the wall where you put your cock and balls.
La fin de l'émission approche. Merci Carole pour ta chronique björkienne.
C'est de rien.
Damien pour ce metal glam et Jo pour les japonaiseries.
Voilà.
J'ai pas dit japonaiserie.
Non, oui. Merci.
Voilà.
Merci.
Merci Laurent pour la technique. Je voudrais terminer cette émission en rappelant aux fans de vinyle qui écoutent cette émission que le 18 avril, c'est-à-dire samedi, c'est le Discard Day. Et que si vous écoutez cette émission, vous êtes intéressé par l'info. Mais à l'occasion, les deux meilleurs albums des Dogs, Legendary Lovers et Too Much Class, sont réédités en vinyle de couleur rouge. Voilà, donc on en parle depuis des années dans cette émission. Je lis là dans les arocs que les vrais, les purs, les durs ont déjà le vinyle original, sans doute, même en double. Donc voilà, donc si vous ne l'avez pas encore, il est temps. Il y a plein d'autres choses intéressantes aussi pour le discarder. On se sépare ce soir avec un titre d'un album à paraître d'un groupe australien qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Tame Impala. Le titre « Cause I'm a Man ». L'album, c'est pour dans, on ne sait pas, trois semaines, un mois et demi. Voilà, il diffuse, il distribue des titres comme ça. Tame Impala, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.